Bonjour aussi.
Comment vas-tu?
Buenos días. Ça va et toi?
Buenos días. Oui, ça va, ça va.
Ouais, tu es prête?
Ça va? Oui, je suis prête. Alors.
Et ben du coup, merci de m'accorder du temps aussi pour répondre à cette interview.
J'ai mis
Ben oui, mais c'est ça qui rend encore meilleur l'interview.
ça fait attendre. Non, mais c'est vrai qu'il y avait toute cette histoire de la pandémie et tout ça, on était un peu out de la circulation. Bon, allez, on attaque.
Alors Rossi, bon, beaucoup de gens connaissent ton nom, connaissent ton visage, peut-être moins ton rapport au textile. Et est-ce que avant qu'on rentre justement dans tout ça, c'est-à-dire ton lien avec le festival, avec le textile, toi-même, ce que tu
C'est
crées.
mignon, c'est mignon. Textival à la place des festivals.
J'ai dit textival. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire comment tu aimes te présenter aujourd'hui?
Écoute, moi, si je ne me présente pas, c'est tant mieux. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal à me définir. Parce que depuis toujours, j'ai senti que la définition, c'était une limitation. C'est comme une acotation. On se définit et on rate beaucoup de ce que peut être l'ampleur d'un être humain. Mais j'ai du mal à me définir parce que tout ce que c'est artistique en moi, ça vient un peu dans le côté inconscient, instinctif. Il y a une partie très rationnelle, très cérébrale et tout ça, mais toute la partie créative, ça vient plus de cette. Alors, plus on est un peu inconscient de soi-même, plus on a de la chance de découvrir beaucoup de choses. Mais si je dois me définir aujourd'hui, c'est vrai que je suis connue comme comédienne plutôt, mais je me sens avant rien, petite poète, artisan, bar artiste.
Et est-ce que tu viens justement d'un milieu plutôt artistique, ton milieu familial?
Non, mais voilà, il y a mon père et ma mère. C'était un mélange assez différent. Ma mère avait une culture. Ma mère, déjà, elle était assez artiste à la base, mais elle n'a pas voulu développer tout ça. Mais elle chantait très, très bien. Elle écrivait bien. Elle peintait des aquarelles très, très belles. Elle savait faire beaucoup de choses. Et mon père, par contre, il n'avait pas été à l'école, il avait été élevé dans les. Mes parents, ils sont du nord de l'Espagne, on appelle les Celtiques, de l'Asturias, toutes les racines, Asturias, Pays Basque, et tout ça. Comme j'ai
D'accord.
dit, mon nez, c'est ADN basque. Mon père, il a été élevé avec des vaches dans les montagnes pour un oncle. Il n'a pas pu aller à l'école. Et quand il avait 14 ans, comme ça, il a vu des maçonniers faire un son pas loin, il a dit, oh, on dirait que c'est pas difficile tout ça. Et à 18 ans, il était déjà indépendant, il travaillait déjà comme maçon. Et il a un côté dans ses mains, il est artiste sans le savoir. Voilà. Il peut faire des petits collages avec des trucs de céramique comme ça qui sont finis dans son machin de travaux. Et fait un truc à la Gaudi sans s'apercevoir. Ou il prend un truc de bois qu'il trouve et il fait un trou pour mettre des manteaux qu'on dirait de l'art africain ou de l'art primitif. Il a ce côté dans ses mains, ses talons manuels. Maintenant, mon père et ma mère, ils sont 89, pardon. Et ils sont encore très, très éveillés. Et il fait encore des choses avec ses mains, autant ma mère que mon père. Alors, il y a ce côté, ouais, je crois que c'est aussi un bon mélange des deux, parce qu'il y a ce côté aussi, j'ai fait des sculptures qui ont l'air primitives aussi, avec la terre cuite, ou avec, j'aime beaucoup le recyclage, je peux mettre du béton avec des pétales de rose, qui sont un mélange que j'ai fait des les plus subtils à les plus forts. Il y a des choses comme ça que ça vient beaucoup de cette mélange de mes parents. rapprochée de côté plus cultivé de ma mère et plus abrupte de mon père.
Et est-ce que tu as voulu, t'as toujours tenu à garder ce côté artistique spontané ou tu as fait t'as décidé de faire des études dans l'art?
Non, malheureusement, je n'ai pas fait des études. Je regrette en quelque sorte. Je suis autodidacte avec tout ce que ça comporte de génialité et de manque de
Ouais.
base et de structure. Donc, il y a les deux choses, tu vois. Il y a des fois, par exemple, je peux créer une petite mélodie au piano sans savoir vraiment jouer le piano. Et parfois, une pianiste virtuose peut me féliciter pour ma mélodie, comme j'ai fait parfois dans les théâtres, quand j'ai eu la chance de travailler avec des grands musiciens comme ça, me dit: Oh, mais je n'aurais jamais inventé une chose aussi simple que toi. Le fait que tu n'as pas étudié te donne cette connexion, et moi, j'ai trop d'infos. Il dit: Mais moi, j'aimerais lire musique comme toi, tu vois. Alors, j'étais toujours. J'aurais adoré apprendre à lire musique et pouvoir composer dans le piano, dans la guitare. Alors, je l'ai fait tout un peu, tu vois, avec cette intuition, mais pas la base technique, quoi.
Ouais.
Ça me donne une liberté, c'est vrai, mais il manque de rigorosité. Heureusement, comme je suis amoureuse de l'erreur, et je crois que l'erreur dans la vie, ça nous donne. Il faut toujours. Il n'y a pas les artistes prétentieux qui pensent que tout s'est créé pour eux et qu'ils sont géniaux et tout ça. Moi, je crois qu'on est tous à la base des artistes, tous les êtres humains. On a la créativité potentielle. Et après, c'est vrai qu'on est véhicule de l'art. Personne ne peut dire qu'il a créé quelque chose. Parce qu'une création, c'est toujours un amalgame d'influences, des autres créations d'autrui. Tu vois, et si tu. On gratte dans quelque chose, on trouve des caps et des caps et des caps. Alors, c'est prétendre créateur ou génie de quelque chose. Moi, ce que j'aime par exemple, quand j'ai fait un personnage de cinéma, ou une sculpture, ou quelque chose que je fasse, ou une chorégraphie, j'aime bien me mettre au service de quelque chose je ne sais pas comment, d'une énergie qui passe à travers de moi, et c'est moi-même la première à découvrir les résultats. Moi, je n'aime pas les stratégies et tout ça, au lieu de faire. Je suis déjà peut-être. Ce côté autodidacte me fait être comme ça. Je préfère être en synergie avec l'erreur aussi. Il y a beaucoup d'anecdotes que c'est trop long de raconter maintenant. Ou l'erreur, il joue, ou l'erreur, par exemple, une que j'aime beaucoup, comme on parle aussi d'art, une que j'aime beaucoup, c'est Miguel Barceló, le peintre, qui allait beaucoup pendant des années, jusqu'à qu'il pouvait, il louait un truc au Mali, il allait
Ouais.
à peindre là-bas quelques mois, non?
Au pédogon.
Et comment? Au Pays
Au
Dogon, voilà.
pédogon, ouais.
Mon petit frère, c'est un expert du Pays Dogon. Malheureusement, je suis jamais allé. Maintenant, c'est dangereux d'aller.
Ouais.
Il faudra attendre. Mais alors, Miguel, quand il allait là-bas, c'est qu'il arrivait beaucoup de fois, c'est que les termites maliennes, ils mangeaient ses peintures. Il se réveillait le matin, il trouvait que tous les tableaux qu'il avait peintés, c'était mangé pour les termites. Alors il disait: Ouf, ça c'est pas bon et tout ça. Alors il a trouvé un liquide, une solution jetée sur les peintures, quelque chose qui empêchait les termites de les manger. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: Je suis au Mali. C'est moi l'étranger en quelque sorte. Je viens ici à peindre parce que ça m'inspire, parce que patati, parce que patata. Alors les termites sont maliennes. Ils ont le droit aussi à manger les peintures parce que les peintures sont là. Alors, il a pas mis la teinture anti-termite partout l'ouvre. Il l'a mis par des parties. Alors, les termites mangeaient une partie et la partie qu'il avait mis le liquide répulsif, il restait intact. Alors, quand il a présenté tous ses ouvres, il a présenté ouvres réalisées en collaboration avec les termites du Mali. Et moi, je trouve ça poétique d'abord et honnête aussi, honnête. Alors, c'est pour te dire que moi, je ne crois pas qu'on est, nous, les contrôles. Je n'aime pas trop tout contrôler dans son création artistique. Il faut les étudier en petite, comment on dit, une petite, où entre la lumière de l'erreur, une petite. Il ne faut pas tout contrôler, il ne faut pas se créer qu'on est les patrons de la pièce, qu'on est génial. Tu vois, tout ça ne m'intéresse pas. Les résultats, toujours, il doit y avoir quelque chose d'accidental et de mistake. Voilà.
Est-ce que ça, tu retrouves cet espace de liberté au cinéma?
Si, si, je l'apprends. Heureusement, il y a beaucoup, beaucoup de metteurs en scène, de créateurs qui aiment ça. Il y avait Pedro, par exemple, Pedro Almodovar, c'est un des. Et tout ce qui arrive, il y a beaucoup d'anecdotes, des choses qui arrivent à l'imprévu, et qui, lui, à la place de dire, ah non, je n'ai pas écrit ça, je n'ai pas tourné ça, non. Ah, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah, mais on va profiter ça pour ça. Et tout l'accidentel dans l'art, il faut qu'il enrichisse un procès. Parfois, il respecte aussi les qui sont artistes, autant comédiennes, peintres, qui sont méthodiques ou qui sont rigoureux. Je respecte beaucoup et je suis admiratif. Mais moi, ce n'est pas mon truc, parce que comme je ne suis pas rigoureuse. Alors, je dois être toujours en complicité avec quelque chose de supérieur à moi, avec quelque chose. Je me mets au service d'être véhicule. Par exemple, quand j'ai fait un personnage, je ne suis pas non plus dans la méthode. Je suis pas, je me suis, c'est mon côté autodidacte aussi. L'effet, je suis plus dans l'énergie. Alors, mon travail comme comédienne, ce n'est pas d'étudier par cœur les textes et tout ça. Dans la vie, on a le temps parfait quand on dit les choses et on n'a pas fait de répète. Quand on va à la boulangerie acheter une baguette, on dit parfaitement une baguette et on n'a pas répété encore les textes. Au contraire, plus tu es fraîche dans ton texte, plus tu l'as pas, mais tu peux lire, mais jamais mémoriser comme un perroquet. J'ai horreur de ça. Alors, moi, comme actrice, mon travail d'actrice, c'est plutôt disparaître. Moi, je ne suis pas dans la conscience de ah, je vais faire ce geste quand je dirai cette phrase. Je ne suis pas dans les calculs. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est plus dans les philosophies taoïstes, on va dire, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le Tao, c'est disparaître. Tu fais ton vide, tu disparais. Tu n'as pas d'ego, tu n'as pas de vanité d'actrice, tu as pas, tu oublies de toi. Et dans cette vide, de s'oublier que c'est quelque chose que j'ai fait sans problème, parce que, comme je te dis, il y a ce côté inconscient quand je travaille dans la créativité que je m'abandonne. Et c'est ça, les bons résultats, c'est ça. Et pas prétendre être plus belle ou moins belle, ou pas prétendre épater quoi, qui que ce soit. Moi, je disparais et le personnage arrive. Et parfois, je me surprends des gestualités, des mains, hein, ou des gestualités de corps que je n'ai pas dans ma vie comme personne et qui apparaissent avec les personnages, une sorte de possession magnifique. Et c'est moi la première à découvrir les résultats. Je ne suis pas dans ces calculs, les stratégies, tout ça. Ça, ce n'est pas ma nature.
Alors, c'est marrant
Peut-être dans une autre vie, je serais quelqu'un de rigoureux.
parce
Technicien, mais pas dans
que.
celle-là, pas dans celle-là.
Mais c'est marrant, tu me donnes des pistes déjà pour mieux comprendre l'autoportrait que j'ai sous les yeux parce que justement il est
Oui.
intitulé Autoportrait et c'est marrant de voir
Oui.
l'autoportrait d'une dame connue pour être pour son image puisque on parle
Oui.
de cinéma et de voir
Oui.
de voir qu'il y a un tissu sur le visage justement. Est-ce que on va parler hein, mieux de cet autoportrait, encore une fois de ton rapport au textile, mais est-ce que déjà c'est un premier élément de réponse quand tu parles du Tao et de ce besoin de disparaître, du vide? Est-ce que ce tissu sur ton visage, c'est une façon aussi de disparaître?
C'est une façon plus d'apparaître que disparaître. En fait, c'est plus comment te dire. Par exemple, les visages, même dans une pièce de théâtre que j'ai fait, qui s'appelle Résilience d'amour, comme la résilience, comme l'art nous aide à faire une constante résilience, je parle des dessins. Les visages, c'est comme un vampire. Il attrape toute l'attention. il veut, dans cette petite poème qu'il a dit dans la pièce de théâtre, il a dit, oui, les yeux veulent te manger, la bouche, le nez, respire. Toute l'attention, il est toujours projeté sur un visage que pour moi, c'est ça. Le visage, c'est comme un vampire qui veut toute l'attention pour lui. Moi, j'ai un visage déjà qui a beaucoup vampirisé parce qu'il est spécial pour les nez, pour la symétrie de mes yeux, qu'il y a un œil de chaque couleur, pour ce côté accidentel de la nature, voilà encore l'accidentalité. Qui m'a donné ses traits et qui j'ai accepté et qu'on dit que c'est comme une pièce d'art vivant. Au cubiste, au picassien, chacun a donné les noms qu'il veut. Mais pour moi, les faits, par exemple, quand j'ai tourné un film au Maroc ou en Afrique, parfois quand on doit se couvrir les visages, les Touaregs, par exemple, quand ils couvrent les visages pour les tempêtes de sable ou quoi que ce soit, tout sent, même maintenant qu'on est obligé à porter des masques, parfois on les sent. On sent la respiration, on est plus conscient de notre respiration, on est plus conscient même de notre battement de cœur quand on est couvert, et on a comme une connexion plus directe avec l'intérieur de nous-mêmes, non? Ça d'un côté. Et plus d'un côté, le fait de que parfois, tu n'as pas mon visage pour t'entretenir dans cette photo, alors tu es obligé de voir des autres choses.
Oui, c'est vrai.
Tu es obligé de remarquer des autres choses, et le vampirisme du visage, il n'est pas en premier plan, alors il y a une autre poésie qui se déclenche, et tu, comme je dis, parfois on est obligé de se couvrir pour se découvrir, pour découvrir vraiment qui on est. Et là, ça me permet justement une approche artistique qui s'éloigne de les visages. Et je ne sais pas pourquoi, je suis toujours attiré. Il y a beaucoup d'images comme ça que tu peux trouver partout, dans les expositions, dans les plans d'artistes qui se couvrent comme ça, au plan de photos que tu peux voir qu'il y a les masques, tout ça, même les masques africaines anciennes qui s'utilisent pour des rites, quand tu entres dans son masque, l'odeur de bois, quand tu te mets ton masque comme ça, il y a tout un côté, voilà, que tu c'est comme un voyage intérieur. Tu voyages à l'intérieur de toi-même. Et cette expérience, ça m'intéresse beaucoup, ça me parle beaucoup. Et c'est pas pourquoi j'étais toujours attiré pour les images où les visages sont cachés, où la tête est couverte. Toujours, j'étais attiré pour ça. Et beaucoup de livres, des images archaïques même. Mais toujours se mettre à l'intérieur de quelque chose, on s'écoute mieux à soi-même. Je sais pas pourquoi, c'est un peu comme ça.
Et donc cette photo, c'est une photo qu'on va voir pendant le festival, donc festival dont tu es l'ambassadrice. Est-ce que
ouais.
ce qu'on voit là, c'est une création textile de ta part, c'est une collaboration, est-ce que tu peux...
Non, tout ça c'est... J'ai né des tonnes et des tonnes, des mètres et des mètres de tissus. Je suis une amoureuse de tissus. Et alors, j'ai né tellement. Et par exemple, beaucoup de cette photo, je crois qu'il y en a 24 de cette photo sans visage. Elle appelle Facelet Autoportrait. Autoportrait sans visage. Il y en a beaucoup et je continue à faire de temps en temps. Alors, ça suffit qu'il y trouve un fond qui m'inspire,
oui.
Où il y a la nature, et après je prends arbitrairement, random comme ça, sans réfléchir, des tissus, des différents, toujours je veux qu'il y ait quelque chose dans la tête, parce que c'est comme un hommage à les femmes, c'est un côté féminin de les femmes qui travaillent, qui portent toujours un poids dans sa tête, et il faut que toujours, par exemple, il y a des autres images qui sont faites au Kenya, au Maasai Mara, et j'avais oublié les choses. Je me suis mis là, je suis descendu du jeep, et je me suis mis là entre les zèbres, et j'avais oublié, il y avait les tissus, mais j'avais oublié les trous de la tête, et tout d'un coup, j'ai vu un os d'hippopotame là, par terre, et j'ai mis l'os d'hippopotame. mais après, c'est vrai que j'ai volé les volets. Si les portes avec moi, c'est tout un peu pour ça. Mais les guides m'ont dit, madame, même pas en rêve, parce qu'à l'aéroport, ils vont vous ils vont vous mettre en prison, si vous trouvez cet os d'hippopotame dans vos valises. Et alors, j'étais obligée de les laisser. Mais toujours, il y a ce côté, j'avais oublié. Alors, ça m'a donné la chance de prendre toujours ce côté. Mais mon histoire avec les tissus, ça vient de loin, de loin. Quand j'étais déjà très, très petite, 11 ou 12 ans,
oui.
À 6 ans, par exemple, à 6 ans, la sœur de ma mère est venue en vacances et on était au jardin. Elle m'a dit, tiens, on va faire une robe à ta poupée. Et elle a pris un petit morceau de drap vieux et elle a fait comme un robe trapèze. Elle a coupé, elle a fait ça. Et tout d'un coup, j'ai vu, j'ai compris qu'est-ce que c'était un trou plan, plate, qui devient tridimensionnel. Alors, à partir de là, il y avait 6 ans, et à partir de là, j'ai commencé déjà à faire des petits trous pour les poupées, etc. Mmh. Mais à 12 ans, j'ai tombé sur une ancienne machine à coudre, un peu les anciennes qui se servaient pour les militaires et tout ça. Et j'achetais beaucoup de tissus, de viscose fleurie. Et j'ai fait beaucoup de blouses, de pantalons, de petites robettes et tout ça. Et je les vendais dans les plus de samedi de Palma de Mallorca. J'étais là avec les gitaines qui vendaient des choses. Et moi, je mettais des cintres dans les petits arbres. Et je vendais déjà mes créations.
Mmh.
Alors, il y avait toujours ce côté de faire. Mais c'était surtout les tissus, ce qui m'attirait. Et les tissus fleuris. Et les tissus. Après, plus tard, avec mes relations avec l'Afrique et tout, j'ai découvert les wax.
Ouais.
Qui curieusement, c'est devenu, pour antonomasie, comme on dit, les tissus africains, mais ce n'était pas africain à la base. Tout le monde qui connaît un peu les C.
Oui, c'est hollandais.
C'était
allemand.
Plus, hollandais parce que c'était plus les soldats. C'était plus les soldats qui allaient, même pas hollandais. Ça vient de... comment on appelle ça?
Avant même d'envoyer des stocks comme ça en Afrique, je crois même que ça allait en Indonésie ou...
Voilà, c'était ça, en Indonésie. Ils sont arrivés des soldats d'Indonésie en Afrique.
Ouais.
Et les Africains, ils sont vu... C'est ça que j'ai cherché justement,
ouais.
L'Indonésie.
Ouais.
Et les Africains, ils ont vu ça, ils ont appris cette façon. Et après... les colonnes, ils en ont profité pour son business et ça continue encore que les wax, les meilleurs, original, c'est les Hollandais, bien sûr. Mais les wax, c'est d'une richesse. Après aussi, c'était utilisé pour faire des messages. Ils mettaient les dessins du président pour faire... Les wax, il a été tellement décliné en quelque sorte. Et aussi parce que c'est comme un coton, j'aime beaucoup. Mais par exemple, dans cette photo, il y a du wax. De vrai de Holland Wax.
Ah oui.
Et après, il y a une autre chose.
J'avais pas fait attention.
Tout ça, c'est des wax.
Ah
si,
ouais.
Ce que je porte là, c'est des wax. Et après, ce que je porte dans la tête, par contre, c'est un tissu que j'avais acheté il y a. Et ce qui sort un peu aussi par derrière, au violet en bas.
Oui.
C'est il y a un peu les verts aussi. C'est des tissus que j'avais acheté à Barbès, mais à les années 90.
Ah bon?
Alors imagine, alors il y a tout ce mélange déjà, comme je t'ai dit, je parle des tissus, chacun a son histoire, il y a beaucoup de tissus que je n'ai pas arrivé à faire en robe, des autres oui, il y en a des tons de tissus, et par exemple, cette autoportrait que j'ai fait, ma première exposition, je l'avais fait à Salt, que c'est un village de Gironde,
mm-hmm.
Très intéressant, où il y a un multiculturel et tout ça. Et Salt, c'est un endroit où il y a beaucoup de théâtres aussi alternatifs, et c'est où Dali achetait les pains, les baguettes et tout ça. Et c'est un endroit, comme on disait, la Catalogne veut s'indépendre de l'Espagne, mais Salt, cette ville, s'indépendissait de Gironde. C'est un endroit très, très curieux, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup d'Africains, beaucoup de Catalans aussi, et c'est un mélange. Et là, j'ai trouvé des boutiques, des Arabes et des Africains où j'achetais des tissus en plan Catalogne, que j'ai dit, ouf, on n'a pas besoin d'aller en Afrique pour se fournir comme ça.
Ah ouais.
Incroyable.
Ah ouais. Et c'est quoi?
Incroyable. Les tissus, finalement, nous unifient beaucoup à tous.
Comment tu as pris l'invitation d'être l'ambassadrice du festival, du FIT pour cette année 2020?
Bon, je suis honoré parce que, tu vois, on a tellement d'invitations de festivals de cinéma que je pourrais passer toutes les années d'un festival à l'autre et tout ça. Mais c'est vrai que des festivals comme ça, où les textiles, c'est les protagonistes, et en plus, ça sert pour ouvrir tout un éventail culturel autour de Tissot. Je trouve ça extraordinaire. Je ne connaissais pas le festival, c'est merci à mon ami Simon Yami.
Oui.
Il m'a dit, ça te va, parce qu'il me connaît, il connaît toutes mes fascinations pour les tissus. Il m'a dit, ça, tu dois le faire et tu vas voir. Et finalement, quand j'ai eu l'entretien avec Christine, on s'est vu à Paris, c'était magnifique. Mais j'ai hâte de venir et voir, et tous les cette année, ça promet. Et les autres années, les catalogues de l'année dernière, c'est magnifique. C'est quelque chose qui reste, ça peut être, c'est pas éphémère.
Oui.
Il y a toutes ces récompilations, il y a beaucoup d'inspiration dans les catalogues, c'est très intéressant.
Ah
Voilà.
bah, moi je viens de je pense que tu es la 30e que j'interviewe là. Non, j'en ai déjà interrogé beaucoup. C'est
Imagine.
incroyable hein, Rossi. La
Et moi,
riche
je
la
vais être
richesse.
l'ambassadrice depuis toujours pour pouvoir voyager quand le festival va aller en voyage.
Ouais. Ah bah oui.
En voyage exotique, c'est ça que je veux aussi.
L'an prochain, c'est à Dakar, du coup. L'an prochain.
Voilà.
Et
Bon,
comment.
mais Dakar, c'est chez moi aussi. J'ai ma famille
Ah
là-bas
oui?
et je suis
D'accord.
très attaché au Sénégal. Ouais.
Ah, d'accord. Et
Ouais.
comment. Peut-être.
Et pour Amano, je me rappelle aussi, regarde, j'ai fait une pièce de théâtre qui n'était que deux comédiennes, et j'ai fait tous les costumes, et j'ai fait des mélanges, j'ai pris de la soie et tout, et j'ai fait la teinture, de la soie, par moi-même. Il y a une époque, j'ai fait beaucoup la teinture, tout le procès de travailler en tissu pour qu'il devienne autre chose. J'ai fait beaucoup de dessins avec la teinture. Voilà, tout ça, tu vois, cette nuage de couleurs que tu peux faire toi-même, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a d'aller dans des endroits comme le Maroc où on voit tous ces pigments et comment ils mettent les tissus en valeur et les couleurs, tout ça, c'est comme les espèces, non? Quand on voit au marché d'espèces et on voit toutes ces odeurs, toutes ces
Des épices,
couleurs. J'adore l'artisanat, c'est forcément un truc équitable parce qu'on le fait avec les mains, on ne peut pas le faire à toute vitesse, d'une façon industrielle. Et il y a de l'amour dedans, après ça dure le temps. Et voilà, et maintenant c'est génial tout ça. Mais comme j'ai dit avant qu'artiste, je me sens plutôt artisan. Et j'ai
artisan,
beaucoup d'admiration. Et heureusement qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, on peut le voir en Instagram, beaucoup de métiers artisans ils sont revenus. Et les gens de chez eux avec peu de moyens, mais avec un profil Instagram où on voit ses créations, ils peuvent aussi avoir cette capacité de les vendre en détail. Et ça,
Ouais,
c'est génial.
c'est sûr. Et alors, tu as parlé tu viens d'évoquer ce mot d'amour là. Est-ce que tu peux me dire comment tu comprends ce titre de l'expo, Love, etc. Qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Etc. Etc. Je le comprends bien. Non, les love, vraiment, c'est justement ça. Je crois que l'amour, c'est les détails, non? Les détails. Et la simplicité des choses. Il y a une chanson de Chavela Vargas que je chante beaucoup. Peut-être que je pourrais la chanter quand je viens au festival, qui s'appelle Las simples cosas. Les simples choses. Les choses simples. Et dit, quand tu manges un bout de pain au soleil dans son table avec des gens que tu aimes, quand tu vois toutes les simples choses aujourd'hui avec cette pandémie aussi, on est spirituellement, je crois que beaucoup de gens sont dans la panique, dans la comment on dit, la même les politiciens et tout ça, à la place de rester calme, ils sont encore dans une bataille, dans son. Mais beaucoup de monde on reconnaît avec la spiritualité et avec l'amour pour les choses simples. Pour les, et l'amour, pour moi, c'est aussi une gratitude de pouvoir voir ce qu'on a. Et comme j'ai dit, moi, je regarde les fleurs, par exemple, les roses, quand elles s'ouvrent comme ça tout seul. Et je dis, mais on ne peut pas comprendre en regardant ça que la méchanceté existe. Quand on voit une belle fleur comme ça, que ça crée à elle-même. Pour moi, les combles de l'amour, finalement, c'est la nature, parce que la nature te donne tellement d'amour et en même temps elle n'est jamais prétentieuse. La cuisine aussi a beaucoup d'amour, comme je dis. C'est l'ingrédient le plus important quand tu fais quelque chose à manger et tu le fais pour les gens que tu aimes et tu le fais avec amour. C'est l'ingrédient suprême, invisible, mais on peut les goûter quand on mange quelque chose qui s'est fait avec amour. L'amour, il est dans tous les détails, et dans son douceur, et dans son regard, une façon de regarder la vie, de comprendre ce que c'est essentiel. Et après, il y a toutes sortes d'amour, les amours à les enfants, les amours à les animaux, l'amour à notre être humain, qui peut être notre couple. Mais après, tout devient pour un amour qu'on doit travailler sans arrêt, que c'est l'amour à soi-même. Ça commence par là, et par un respect, pour un amour, pour l'amour aussi pour moi c'est compassion, c'est empathie. Il y a beaucoup, l'amour il comprend beaucoup de choses. Mais la nature peut-être c'est les choses où je sens plus l'amour parce que la nature elle est détachée de toute prétention. Et c'est comme les animaux, un oiseau chante, et il ne chante pas pour se la péter. Il chante parce que tout ça, c'est. Et je crois que l'art, finalement, il essaie de se rassembler à la nature. Mais la nature, finalement, je crois que c'est où on peut regarder l'amour. Avec ce détachement de conséquences, comme on dit. Parce que nous, on fait toujours les choses pour avoir un résultat, pour avoir une conséquence qui nous plaît. Donc, toujours, on a ces choses de faire, je vais faire ça, moi, je fais la gymnastique pour avoir un meilleur corps. On fait ceci pour. On ne fait pas les choses pour l'effet de les faire avec un acte d'amour. Et c'est ça qu'on doit apprendre beaucoup de la nature, non?
Merci, Rossien, c'est très beau. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de t'entendre là. Ça me fait du bien, tu vois.
Oh, merci Mathieu.
Ouais, vraiment.
Merci. Merci beaucoup Mathieu.
Merci, gros bisous. Gros bisous, à bientôt. Au revoir.
Bye.